Bonjour, vous êtes bien installé ? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer vos yeux. Il n'attendait que vous et votre envie de le découvrir pour retrouver la vie, et ce n'est que le début. Le livre en vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Aujourd'hui, je m'arrête sur Les raisins de la colère de John Steinbeck, mon livre de chevet. Je l'ai découvert à un moment crucial de ma vie, un moment assez douloureux. Sans doute a-t-il eu un impact et une résonance très forte en moi pour cette raison. À 27 ans, John Steinbeck se lance dans la littérature historique sans rencontrer un grand succès. C'est avec Les raisins de la colère qu'il s'attire l'hostilité d'une partie de ses compatriotes. Steinbeck a bien conscience de l'aspect révolutionnaire de son roman, si bien qu'il demande à son éditeur un tirage limité. La presse se déchaîne contre l'ouvrage, considéré comme un pamphlet communiste. Elle lui reproche son style vulgaire et ses prises de position socialistes. Le livre est interdit dans plusieurs villes de Californie. Malgré cette opposition, le récit connaît le succès. Il est même adapté au cinéma par John Ford et sera récompensé de plusieurs Oscars. John Steinbeck reçoit le prestigieux prix Pulitzer avant de se voir décerner le prix Nobel de littérature en 1962. Les raisins de la colère, c'est le grand ouvrage de référence du début des années 30. Alors que sévit la Grande Dépression aux États-Unis, une partie du Midwest est frappée pendant une dizaine d'années par des tempêtes de poussière. Les fermiers ruinés et affamés prennent par milliers la route de l'Ouest vers la Californie. Ce sont près de 3 millions de personnes qui sont obligées de quitter leurs terres, exode massif dont les États d'Oklahoma et d'Arkansas ont fourni les plus gros contingents, ceux qu'on a surnommés respectivement « Okies » et « Arkies ». Nous sommes donc quelque part dans le Midwest, début des années 30. Sécheresse et tempêtes de poussière détruisent les cultures de maïs, c'est le Dust Bowl. Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes de ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent l'herbe et une variété de plantes folles le long des routes, si bien que les terres grises et les sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un manteau vert. À la fin de mai, le ciel pâlit et les nuages, dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps, se dissipèrent. Jour après jour, le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liseré brun s'allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages apparaissaient puis s'éloignaient. Bientôt, ils n'essayèrent même plus. Les herbes, pour se protéger, s'habillèrent d'un vert plus foncé, cessèrent de se propager. La surface de la terre durcit, se recouvrit d'une croûte mince et dure, et de même que le ciel avait pâli, de même la terre prit une teinte rose dans la région rouge et blanche dans la grise. Dans les ornières creusées par l'eau, la terre s'éboulait en poussière et coulait en petits ruisseaux secs. Mulots et fourmilions déclenchaient de minuscules avalanches. Et comme le soleil ardent frappait sans relâche, les feuilles du jeune maïs perdirent de leur rigidité de flèche. Elles commencèrent par s'incurver, puis, comme les nervures centrales fléchissaient, chaque feuille retomba toute flasque. Puis ce fut juin, et le soleil brilla plus férocement. Sur les feuilles de maïs, le liseré brun s'élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs racines. L'air était léger et le ciel plus pâle, et chaque jour la terre pâlissait aussi. Sur les routes où passaient les attelages, où les roues usaient le sol battu par les sabots des chevaux, la croûte se brisait et la terre devenait poudreuse. Tout ce qui bougeait sur la route soulevait de la poussière. Un piéton en soulevait une mince couche à la hauteur de sa taille, une charrette faisait voler la poussière à la hauteur des haies, une automobile en tirait de grosses volutes après elle. Et la poussière était longue à se recoucher. À la mi-juin, les gros nuages montèrent du Texas et du Golfe, de gros nuages lourds, des pointes d'orage. Dans les champs, les hommes regardèrent les nuages, les reniflèrent et mouillèrent leurs doigts pour prendre la direction du vent. Et tant que les nuages furent dans le ciel, les chevaux se montrèrent nerveux. Les pointes d'orage laissèrent tomber quelques gouttelettes et se hâtèrent de fuir vers d'autres régions. Derrière elles, le ciel redevenait pâle et le soleil torride. Dans la poussière, les gouttes formèrent de petits cratères. Il resta des traces nettes de taches sur le maïs et ce fut tout. Une brise légère suivit les nuages d'orage, les poussant vers le nord, une brise qui fit doucement bruire le maïs en train de sécher. Un jour passa et le vent augmenta, continu, sans que nulle rafale vînt l'abattre. La poussière des routes s'éleva, s'étendit, retomba sur les herbes au bord des champs et un peu dans les champs. C'est alors que le vent se fit plus dur et violent et qu'il attaqua la croûte formée par la pluie dans les champs de maïs. Peu à peu, le ciel s'assombrit derrière le mélange de poussière et le vent frôla la terre, fit lever la poussière et l'emporta. Le vent augmenta. La croûte se brisa et la poussière monta au-dessus des champs, traçant dans l'air des plumées gris semblables à des fumées paresseuses. Le maïs brassait le vent avec un froissement sec. Maintenant, la poussière, la plus fine, ne se déposait plus sur la terre mais disparaissait dans le ciel assombri. Le vent augmenta, glissa sous les pierres, emporta des brins de paille et des feuilles mortes et même de petites mottes de terre, marquant son passage à travers les champs. À travers l'air et le ciel obscurci, le soleil apparaissait tout rouge et il y avait dans l'air une mordante âcreté. Une nuit, le vent accéléra sa course à travers la campagne, creusa sournoisement autour des petites racines de maïs et le maïs résista au vent avec ses feuilles affaiblies jusqu'au moment où, libérées par le vent coulis, les racines lâchèrent prise. Alors, chaque pied s'affaissa de côté, épuisé, pointant dans la direction du vent. L'aube se leva, mais non le jour. Dans le ciel gris, un soleil rouge apparut, un disque rouge et flou qui donnait une lueur faible de crépuscule. Et à mesure que le jour avançait, le crépuscule devenait ténèbres et le vent hurlait et gémissait sur le maïs couché. Hommes et femmes se réfugièrent chez eux et quand ils sortaient, ils se nouaient un mouchoir sur le nez et portaient des lunettes hermétiques pour se protéger les yeux. Quand la nuit revint, ce fut une nuit d'encre, car les étoiles ne pouvaient pas percer la poussière et les lumières des fenêtres n'éclairaient guère que les cours. À présent, la poussière et l'air, mêlés en proportions égales, formaient un amalgame poudreux. Les maisons étaient hermétiquement closes, des bourrelets d'étoffe calfeutraient portes et fenêtres, mais la poussière entrait si fine qu'elle était imperceptible et se déposait comme du pollen sur les chaises, les tables, les plats. Les gens les poussaient de leurs épaules, de petits traits de poussière soulignaient le bas des portes. Au milieu de cette nuit-là, le vent tomba et le silence s'écrasa sur la terre. L'air saturé de poussière assourdit les sons plus complètement encore que la brume. Les gens couchés dans leur lit entendirent le vent s'arrêter. Ils s'éveillèrent lorsque le vent hurleur se tut. Retenant leur souffle, ils écoutaient attentivement le silence. Puis les coqs chantèrent et leur chant n'arrivait qu'assourdi. Alors les gens se tournèrent et se retournèrent dans leur lit, attendant l'aube avec impatience. Ils savaient qu'il faudrait longtemps à la poussière pour se déposer sur le sol. Le lendemain matin, la poussière restait suspendue en l'air, comme de la brume, et le soleil était rouge comme du sang frais caillé. Toute la journée, la poussière descendit du ciel comme au travers d'un tamis, et le jour suivant, elle continua de descendre, recouvrant la terre d'un manteau uniforme. Elle se déposait sur le maïs, s'amoncelait au sommet des pieux de clôture, s'amoncelait sur les fils de fer. Elle s'étendait sur les toits, ensevelissait les herbes et les arbres. Les gens sortirent des maisons, humèrent l'air chaud et corrosif et se protégèrent le nez. Les enfants sortirent eux aussi des maisons, mais ils ne criaient pas. Ils ne couraient pas comme ils l'eussent fait après la pluie. Les hommes se tenaient près de leur clôture et regardaient leur maïs dévasté, qui se dessachait vite maintenant, ne montrant plus qu'un tout petit peu de vert sous la mince couche de poussière. Les hommes se taisaient, ne bougeaient guère, et les femmes sortirent des maisons pour venir se placer près de leurs hommes, pour voir si cette fois les hommes allaient flancher. À la dérobée, elles scrutaient le visage des hommes, car le maïs pouvait disparaître, pourvu qu'il restât autre chose. Les enfants étaient là, tout près, traçant de leurs orteils nus des dessins dans la poussière, et avec leurs sens en éveil, ainsi que des antennes, les enfants cherchaient à deviner si les hommes et les femmes allaient flancher. Les enfants guignaient les visages des hommes et des femmes avec application. Ils se remettaient à tracer du bout de leurs orteils des lignes dans la poussière. Des chevaux venaient aux abreuvoirs et soufflaient des naseaux sur la surface de l'eau pour en chasser la poussière. Au bout d'un moment, les visages des hommes qui observaient perdirent leur expression de perplexité stupéfaite et devinrent durs, colères et résolus. Alors, les femmes comprirent que le danger était passé et qu'il n'y aurait pas d'effondrement. Elles demandèrent alors « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et les hommes répondirent « Je ne sais pas. » Mais tout allait bien. Les femmes savaient que tout allait bien et les enfants sagaces savaient que tout allait bien. Femmes et enfants savaient au fond d'eux-mêmes que nulle infortune n'est trop lourde à supporter du moment que les hommes tiennent le coup. Les femmes rentrèrent chez elles et retournèrent à leur besogne, et les enfants se mirent à jouer, mais timidement au début. À mesure que le jour avançait, le soleil devenait moins rouge, il lardait ses rayons sur la campagne emmitouflée sous la poussière. Les hommes s'assirent sur le seuil de leur maison, tripotant des bâtons et des petits cailloux. Assis devant les portes, immobiles, les hommes réfléchissaient, calculaient. Le livre en vie s'est terminé pour aujourd'hui. Merci Yanis, notre technicien indispensable. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir un pas des deux palais de l'Égyptien Naguib Mahfouz. À très bientôt sur Esprit Occitanie.